Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, le titre pour aujourd'hui, c'est « Savez-vous vraiment regarder ?» ou « Savez-vous regarder vraiment ?» Et dans ce texte que nous voulons lire ensemble, dans Marc 10, 17, il nous est dit « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et lui répondit « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Alors pour ceux qui sont chrétiens depuis un petit moment, fréquentant les églises, vous avez certainement déjà plusieurs fois entendu ce texte et toutes sortes d'interprétations et toutes sortes d'enseignements qu'on a tirés de cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager juste avec vous sur le petit morceau du verset 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima. L'ayant regardé. Donc gardez ça en mémoire, on va y revenir dans un instant. Donc je voudrais parler avec vous aujourd'hui du regard, le regard que nous pouvons porter. Donc vous avez peut-être entendu certaines choses, on dit des fois que les yeux sont le miroir de l'âme. D'autres disent que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Pas seulement pour regarder une fenêtre, c'est on peut regarder dedans et dehors. Ça marche dans les deux sens. Donc, un premier point, on va voir ensemble que l'œil est la lampe du corps. C'est Jésus encore qui nous l'a enseigné. Dans Matthieu 6, 22, il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ?» Et les disciples avaient dit à un moment à Jésus, ils dit « Mais comment ça se fait? Toujours tu parles en parabole aux autres, et puis les gens ne comprennent pas forcément le sens caché. » Parce qu'il y a un temps pour, on pourrait dire, pour semer, et un temps pour récolter. Il y a un temps pour dire des paroles, et un temps pour qu'on puisse avoir la révélation de ces paroles. Donc c'est à deux temps, c'est d'abord une chose un peu extérieure qui après vient à l'intérieur. Donc de la même façon, quand Jésus donne l'explication de l'œil qui est la lampe du corps, c'est vrai que par nos yeux on voit notre environnement, on peut prendre connaissance avec le monde qui nous entoure, mais en même temps il parle de quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire ton œil, c'est ta façon de voir le monde qui t'entoure. C'est ta conception des choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'œil. Par exemple, le mauvais œil. Vous avez entendu parler du mauvais œil. C'est un pouvoir supposé que possède le regard d'une personne. Ça symbolise, par exemple, le regard envieux ou jaloux des autres. Et la croyance populaire, il veut que ce regard provoque même divers malheurs. Et les gens, dans le cadre de la superstition, et ils disent « Ah, quelqu'un qui a le mauvais œil, il va m'attirer des malheurs sur moi. » Et en fait, la peur, c'est la porte ouverte pour que ces malheurs puissent rentrer. Donc, c'est important qu'on ait une juste perspective. Il y a aussi dans le domaine un peu mystique, il y a le troisième œil. Le troisième œil, il est aussi appelé œil intérieur ou l'œil de l'âme. C'est une métaphore mystique d'origine orientale qui désigne, au-delà des yeux physiques, un troisième regard, celui de la connaissance de soi. Et vous savez, souvent dans ces choses un peu spirituelles, un peu mystiques, un peu orientales, il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai, parce qu'il existe un regard sur une dimension spirituelle. Mais bon, nous allons plus précisément dans la parole de Dieu. Il y a aussi une chose intéressante, je dis tout ça un petit peu pour un peu donner le tableau, pour qu'on puisse voir en quoi ça nous impacte.
1 Jean 2,16 dit « En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, l'orgueil dû aux richesses, et viennent non pas du Père, mais du monde. » Donc le monde a une influence sur nous par rapport à tout ce qu'on peut voir de nos yeux. On a nos 5 sens et on prend connaissance du monde qui nous entoure. Et justement, au travers des yeux, il y a un regard et il y a une réception de certaines choses. On a aussi tout un bagage à la fois littéraire, culturel. Peut-être certains d'entre vous connaissez la citation de Victor Hugo dans « La légende des siècles ». Il parle de la conscience et il dit que l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Donc il imagine Caïn, le meurtrier de son frère, poursuivi par sa conscience qui l'accuse encore et encore, comme un œil qui le fixe et qui ne le lâche pas. Et donc Victor Hugo a développé à partir de quelques versets bibliques tout un ensemble de choses où chacun des descendants de Caïn essayait de trouver une solution. Il y en a un qui construisait une muraille, l'autre une tour, etc. Et tout Jubal, Caïn, Enoch et tous les autres, les descendants, chacun essayait d'aider Caïn, mais il n'y avait rien à faire. Cet œil le fixait constamment. C'est cette conscience qui l'accuse. Donc vous voyez, c'est très présent. Il y a aussi dans des choses plus récentes, dans le Seigneur des Anneaux, il y a ce grand œil qui observe et qui regarde partout. Dans des films comme Avatar, ils disent à un moment « je te vois » et dit le « je te vois », ça ne veut pas dire juste « je vois ton extérieur physique », mais « je te connais ». Je sais qui tu es, je te connais. Et donc on a ces choses qui sont présentes partout et paradoxalement, il y a des chrétiens qui sont aveugles. Nous sommes appelés à être ceux qui avons un discernement plus grand, plus affûté, et voir des choses que d'autres ne voient pas, et des fois on est aveugle. Et même les hommes de Dieu peuvent être aveugles. Comme par exemple le prophète Samuel, dans 1 Samuel 8, au verset 9, il nous est dit que quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, « Venez, allons trouver le voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. » Ce que nous n'utilisons plus pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les voyants qui travaillent dans le domaine soit de charlatans, soit de diaboliques. Mais c'était voyant parce qu'ils sont capables de voir une réalité spirituelle qu'habituellement nous ne voyons pas. Mais le voyant, ce n'est pas celui qui a constamment ses regards dans un monde spirituel. Le voyant, c'est quelqu'un qui est comme vous et moi. Je parle maintenant du voyant prophète, comme Samuel. Là. Il est dans une vie naturelle et de temps en temps, Dieu ouvre une fenêtre pour qu'il puisse voir des choses que l'œil naturel ne voit pas. Mais lorsque, dans 1 Samuel 16, 6, quand ils sont entrés dans cette maison où Dieu allait montrer quel serait le futur roi d'Israël, le voyant lui-même se trompe. Il voit Éliab, le fils aîné, et il se dit, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui, parce qu'il nous a dit qu'il avait une belle prestance, il était magnifique, l'aîné de la famille, etc. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Donc, écoutez cette phrase, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans la suite de l'histoire, dans la confrontation entre David et Goliath, il nous est dit justement le regard de Goliath. Quel était-il sur David dans 1 Samuel 17, 42? Le Philistin regardait David et lorsqu'il l'aperçut, donc ses yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant à la belle apparence. C'est pas un guerrier, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Il ne peut rien faire. Donc, revenons à notre texte du départ. Quand Jésus, nous avions lu tout à l'heure, Jésus l'ayant regardé l'aima. Il ne nous est pas dit, Jésus l'ayant regardé le méprisa. parce qu'il n'avait vu en lui qu'un hypocrite et un menteur. Il dit, moi, j'ai observé tous les commandements, je suis parfait, etc. Jésus n'a pas dit, non, tu es un menteur, un hypocrite, c'est pas vrai. Non, il nous a dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Mais il ne nous a pas dit non plus, Jésus l'ayant regardé, l'aima, car il avait trouvé en lui un enfant de Dieu parfait. C'est pas pour ça qu'il l'a aimé. Non. Quand Jésus l'a regardé, il l'aima et il l'invita à le suivre, le prendre comme modèle et apprendre de lui. C'était ça l'invitation. C'était pas juste, je te vois, je t'aime mon enfant, top, point final, je passe à autre chose. Non, il a un plan pour lui. C'est ça que des fois les gens ils veulent avoir ce sentiment d'être aimé, mais le regard de Dieu sur nous, c'est un regard d'amour, mais aussi en même temps un chemin, un accompagnement, un projet. Il y a plein de choses. Et vous voyez, j'ai dit le prendre comme modèle. Comme c'est intéressant, le modèle. Modèle, ça fait penser à la mode. Donc quand c'est la mode, on suit la mode, on ne suit pas la mode. Et ici, on est appelé non pas à suivre la mode, mais quelqu'un qui est un modèle pour nous. Donc suivre Jésus, c'est changer notre regard sur les gens et sur les choses. Ça, c'était autant pour ce que je voulais dire de l'œil et la lampe du corps, notre regard. Passons au deuxième point maintenant. Que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur. On a dit on est appelé à voir autrement les choses et à voir des choses que les autres ne voient pas. Là encore, une petite citation du Monde, Saint-Exupéry, bien connu, « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » C'est ce que le Petit Prince dit chez Antoine de Saint-Exupéry. Mais avant Saint-Exupéry, il y avait la Bible qui disait dans Éphésiens 1:18, Paul qui priait pour les Éphésiens, « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Alors comme c'est un texte un peu dense, très très riche, sur chaque mot presque de ces deux, trois versets, on pourrait passer des heures à méditer, à décortiquer. Donc je vais vous le redire. Dieu prie au travers de Paul pour que nos yeux soient illuminés, les yeux de notre cœur, pour qu'on sache plusieurs choses. Premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? L'espérance d'une vie éternelle. Quelle est la richesse de son glorieux héritage? Numéro 2, au milieu des saints, dans la communion fraternelle, il y a un héritage qui est glorieux. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Pour voir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, on a besoin que les yeux soient illuminés. Et cette puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Vous voyez, c'est tellement riche, c'est tellement dense tout ça. Mais ça nous explique aussi pourquoi la plupart passent complètement à côté. Ils sont même pas à 1% des richesses de Dieu pour leur vie. Donc Paul prie en fait que nous soyons des illuminés. On peut le dire avec humour entre nous, mais parce que si tu dis qu'il y a quelqu'un, oh, c'est un illuminé. Voilà, c'est plutôt négatif, mais en réalité, j'ai pas dit des illuminati, hein, parce que ceux-là, ils existent aussi. Mais c'est toujours cette recherche de voir autre chose, de voir quelque chose qui dépasse le naturel, qui dépasse l'ordinaire. Il y a une recherche, il y a un désir de choses spirituelles, de choses qui vont au-delà. Nous voyons aussi, j'ai dit tout à l'heure, que les prophètes, autrefois on les appelait les voyants, et donc en particulier, la plupart des prophéties leur étaient données par des visions. Dieu leur faisait apparaître le film de quelque chose et il voyait des choses. À un moment donné, dans Jérémie 1, quand Jérémie était tout enfant encore, la parole de Dieu lui fut adressée et la parole de l'Éternel lui est adressée de cette façon en lui disant « Que vois-tu, Jérémie ? Que vois-tu ? Quelle est les choses que tu vois ?» Et il répond « Je vois une branche d'amandier. » Alors, ça vous parle, branche d'amandier ? J'ai fait quelques recherches. L'Éternel lui dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Ça, en général, nous le connaissons parce qu'on utilise souvent ce verset en priant, je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. C'est bon de savoir que Dieu veille sur sa parole. Mais en quoi la branche d'amandier est-elle intéressante pour nous? Eh bien, l'arbre n'a pas échappé aux règles du sens et de signification. Et dans la Bible, chez les Hébreux, l'amandier, c'est le symbole de l'éveil et de la vigilance. Il est, en Israël, le premier arbre qui fleurit. Et donc, quand l'amandier fleurit, c'est un peu comme un signal de départ pour les autres arbres. Ça y est, c'est le printemps, on peut y aller, vous pouvez tous vous mettre à fleurir, hein, je caricature un peu, pour dire, il est le premier, il a cette vigilance, cette capacité de voir que c'est la bonne saison. Donc, transposer, quand Jérémie voit un amandier, il sait parfaitement ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le signal de quelque chose de nouveau. La vie va de nouveau éclore. On est la première journée de l'hiver aujourd'hui. Donc l'hiver, c'est la période repos. Il se passe rien, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. C'est la vie, elle est là. Elle attend juste que ça soit de nouveau le bon moment. Et quand c'est le moment du renouvellement, du refleurissement, eh bien, la sève va pousser et on va voir cette transformation de la nature comme tous les ans. Et donc, quand Jérémie reçoit cette parole de Dieu et qu'il dit « J'ai vu l'amandier », il dit « Oui, tu as bien vu. Tu as bien observé. Tes yeux étaient attentifs. Tu as vu que c'était l'arbre vigilant, l'arbre qui indique qu'il y a un changement qui est en route. » Donc, l'esprit de l'homme, nous dit Proverbe 20-27, c'est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. C'est comme si vous pouviez, à l'intérieur de vous, mettre une lampe de poche, là, du style les torches des policiers américains, vous savez, super puissantes, et vous pouviez regarder ce qu'il y a au fond. C'est cette capacité qui nous est dit que nous recevons, que les yeux de notre cœur soient illuminés. Et en troisième point, donc on a vu l'œil qui est la lampe du corps, on a vu que Dieu va illuminer les yeux de notre cœur, et quelle application on peut en tirer maintenant? En troisième point, je voudrais vous parler du préjugé, du jugement et du rejet. Parce que c'est en général dans l'ordre tel que nous les faisons. Jean 7, 24 nous dit « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste ». Ne jugez pas d'après l'apparence. Tout à l'heure, on en a déjà vu que l'Éternel regarde des choses que l'homme ne voit pas parce qu'il regarde à l'apparence. Jésus reprend dans Jean 7, il dit « Ne jugez pas d'après l'apparence. » Parce que nos cinq sens nous avertissent pour nous protéger des dangers qui nous entourent. On reçoit des infos, on les analyse. Mais quand il s'agit des êtres humains, nos infos sont souvent incomplètes et superficielles. N'est-ce pas vrai? On voit quelqu'un, on se fait tout de suite une idée de qui il est, comment il est, etc. Alors qu'on sait très peu de choses sur lui. On a juste une apparence physique peut-être, ou une première attitude. Donc, toutes ces infos incomplètes ou superficielles peuvent altérer notre jugement, ou le fausser si vous préférez. Alors dans certains cas, après, on devrait dire « pardonne-moi, je t'avais mal jugé hein », parce qu'on avait juste, on était parti tout de suite sur une idée. Et ce problème, justement, du jugement hâtif, préjugé, ensuite jugement hâtif, il vient du fait que nous sommes des fois méfiants par rapport à ce qu'on a vécu. On est méfiants, on a vécu des mauvaises expériences. Donc, la Bible nous montre bien qu'il y a une différence entre la prudence et la méfiance. Méfiance, c'est déjà porter une sorte de jugement. Attention, un danger, quelqu'un... C'est quelqu'un qui est peut-être pervers, tordu, il dit une chose, il pense une autre. Et là, la Bible nous montre que rapidement, on peut basculer et sortir de l'amour, parce que la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous voyez, donc, au départ, on peut être prudent, mais assez rapidement, ça peut nous faire basculer dans « on soupçonne le mal », et à cause de cette attitude que nous avons, il y a une forme de rejet qui se manifeste. Et ça handicape gravement nos relations les uns avec les autres. Donc des fois la Bible dit quelque chose, mais la Bible dit aussi autre chose. Et ça nous permet de non pas d'être naïf, dire tout le monde est beau, il est gentil et tout va bien, je soupçonne rien. C'est pas ça que je dis. Je dis, on fait preuve de prudence, mais ne projetons pas sur les autres tout de suite un regard négatif. Parce que c'est justement ça qui fait qu'on ne peut plus avoir de relations de qualité. Donc, on est invités à accueillir avec bienveillance ceux que nous croisons, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas preuve de discernement. Mais regardez encore un exemple, on a vu un miracle de Dieu se produire dans Actes chapitre 3, verset 3. Il nous est dit, voyant Pierre et Jean, encore une fois le regard, il regarde Pierre et Jean, c'est le paralytique qui était assis à la porte, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les regards sur eux. D'accord ? Il a vu, il y a une différence entre voir et fixer le regard. Regardez d'une façon plus insistante. Et eux, ils disent, regarde-nous. Alors, il les a vus, il a fixé le regard, et eux lui disent encore, regarde-nous. Ça fait quand même beaucoup, hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le regard de la foi, s'attendant à recevoir quelque chose. Pour le moment, il était juste dans son schéma habituel. Je tends la main, faites-moi l'aumône. Il les a vus, c'était extérieur. Mais à un moment donné, donc, ils ont fixé les yeux sur lui et ils ont dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement. Vous voyez, il y a une progression. Attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et voilà la clé. Il faut être arrivé jusqu'à ce point où on s'attend à recevoir quelque chose. C'est valable pour notre attitude par rapport à Dieu. Il peut être présent dans notre vie, mais un peu flou, un peu vague. Oui, il est là quelque part, je sais pas trop. Ou alors, on peut vraiment s'attendre à lui pour quelque chose de particulier. Et c'est la même chose dans nos relations avec les autres. On peut être ensemble, on peut être dans la même pièce, on peut bavarder de tout et de rien, ou à un moment donné, on peut avoir une vraie communion. Et on est appelé à ça, une vraie communion. Et donc, nous sommes appelés aussi à vivre quelque chose de particulier, je crois, dans la période dans laquelle nous sommes, et à réaliser l'amour de Dieu. J'aimerais citer Jean 3,16, que vous connaissez peut-être tous, mais je vais faire comme si vous l'aviez jamais entendu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais rajouter quelque chose qui est en rapport avec ça. C'est dans Jean 6, 37, Jésus a dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc Jésus dit en d'autres mots, « Je ne rejette pas ceux qui viennent à moi. » Je t'aime tel que tu es, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Chacun d'entre vous, vous êtes aimé, Dieu fixe ses regards sur vous et il vous communique quelque chose de son amour dans l'état dans lequel vous êtes. Il vous appelle à sa suite. Et nous, comme on est ses disciples et qu'on veut aussi marcher à sa suite, eh bien, on veut avoir ce regard bienveillant, bienveillant et en même temps vigilant, d'être attentif. Et j'aimerais en conclusion vous apporter ce passage qui a été retenu par les églises pour 2015. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et donc nous avons ces petits signets avec un petit calendrier où c'est écrit dessus. Accueillez-vous donc les uns les autres. Donc nous sommes à la veille de Noël, tout près, c'est Noël, et bien que ce soit Noël, un Noël de l'accueil. Que Jésus soit le bienvenu, qu'on puisse vivre quelque chose de la gloire de Dieu, qu'on puisse vivre quelque chose avec quelqu'un qu'on va rencontrer, un proche, un prochain, ou un voisin, ou quelqu'un qui nous est étranger dans le sens qu'on ne connaissait pas, mais qu'on ait vraiment ce désir de vivre quelque chose de qualité. Et en conclusion, un autre passage dans 1 Pierre 4, 7, on est appelé à la sobriété. La fin de toute chose est proche, nous dit la Bible. Soyez donc sages et sobres. Sobre, ça veut dire ne pas être dans des excès, ne pas se laisser distraire de certaines choses importantes, afin de vous livrer à la prière, cette communication avec Dieu. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. L'amour ardent, c'est justement l'inverse de ce que la plupart vivent. Quelque chose de superficiel. Salut, comment ça va? Et je passe à autre chose. Je fixe même pas la personne à qui je m'adresse. Et donc, on est appelé à toute autre chose. Il nous est dit, car l'amour couvrira une foule de péchés. exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. L'hospitalité. Hospitalité, ça ne veut pas forcément dire que vous allez accueillir plein de monde chez vous pour loger, mais faire une place à d'autres personnes dans votre journée, prendre un peu de temps et communiquer d'une façon positive ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.